diciamo, le sestuate, le dovine, le zone, le femmes, le chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les manques vivants, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire. Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter, vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, c'est l'école des guerriers à Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et Radio Primitif, c'est Reims. C'est Grégor, une parole anarchiste communiste. Et on va commencer par une bonne nouvelle. Il y a 15 jours, on vous avait parlé d'un procès qui avait lieu le 9 octobre, donc à Cherbourg, concernant trois Bretons qui étaient poursuivis pour provocation directe suivie d'effet à un attroupement armé, complicité de destruction de biens d'autrui, et j'en passe, c'était la SNCF qui était visée, et organisation d'une manifestation interdite. Eh bien, il s'agissait de Valognes en novembre 2011, puisque il y avait eu un train de déchets nucléaires allemands qui avait été bloqué donc à Valognes en novembre 2011. On avait fait une interview de l'un des inculpés. Et bien finalement, ça s'est très bien passé, le procès, puisqu'ils ont été tout simplement relaxés. Et oui, puisque les prévenus avaient nié évidemment de ne pas être les organisateurs du mouvement auquel ils avaient participé, et auquel avaient surtout participé plusieurs centaines de personnes. Et finalement, il n'y avait rien dans le dossier. Donc, la justice a décidé, de manière étonnante tout de même, pourvu que l'État fasse pas sa appel, qu'il y avait rien, étant donné qu'il y avait rien dans le dossier, eh bien, les trois personnes étaient tout simplement blanchies de toute cette affaire. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait quand même 200 personnes, qui étaient venues les soutenir. 150 à 200. Il y avait des gens qui étaient, locaux. Il y avait aussi des gens de Bure, près de chez nous, donc, de Paris, du Tarn, etc. Il y avait pas mal de gens, donc. Et après, on vous l'avait dit, il y avait une assemblée générale qui a eu lieu pour donner des suites à ce mouvement antinucléaire. Alors, en fait, ce qu'on avait dit il y a 15 jours s'est avéré vérifié. Ce mouvement va axer beaucoup de choses sur Bure, un lieu central donc de rassemblement pour 2013, puisque l'ANDRA aura dévoilé définitivement les sites à cette époque-là. Pour l'instant, d'après ce que l'on sait, il y aurait 200 hectares pour le stockage nucléaire et 100 hectares pour le non-nucléaire. Donc voilà, et puis en 2013, il y aurait encore des trains de déchets qui sont en arrivance de Hollande, d'Italie. Donc se pose le problème de la riposte, concentré sur un lieu, voilà. Bon, et puis normalement, il devrait y avoir d'autres assemblées générales où vous pouvez sans problème avoir des nouvelles sur Internet par le mouvement anti-THT. Je crois que si vous tapez
Stop THT,
il y a un blog, il n'y a pas de problème, vous avez toutes les informations. Voilà. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas appel, quoi.
Ben, ouais, je pense pas. Si ils ont été déboutés en première instance, ils risquent de se couvrir de ridicule en appel. Après, il faut voir ce que le parquet. Donc, le parquet, c'est la chancellerie, c'est donc clairement le pouvoir. Si y a un appel, il y a clairement une volonté de l'État et donc du pouvoir d'augmenter, de continuer la pression sur le mouvement antinucléaire, enfin, sur le mouvement, sur les acteurs du mouvement antinucléaire. Dans la Manche, quoi.
À moins que ça soit la SNCF qui fasse appel.
C'est possible également, mais si il y a eu quand même là une bonne claque à la SNCF, bon, d'autant plus que ce samedi il y avait une manifestation antinucléaire à Laval. Qui a rassemblé environ 2 à 3 000 personnes sur des bases quand même plutôt intéressantes puisqu'il y avait assez peu de boutiquiers politiciens mais plutôt des gens qui sont investis à la fois dans les luttes dans la Manche et puis toute la Bretagne hein, qui est historiquement et traditionnellement antinucléaire. Alors par tradition c'est pas quelque chose de réactionnaire mais c'est qu'il y a une histoire avec en plus des structures qui elles sont aussi si elles le sont parfois, mais elles sont quand même souvent indépendantes des groupuscules politiques. Je pense notamment aux comités locaux antinucléaires, les CRIN et les CLIN, les comités locaux d'information antinucléaire. Donc il y avait 2000 à 3000 personnes. Donc il y a toujours cet embryon de mouvement qui est là. Nous on avait des camarades qui étaient, donc on peut pas vous dire s'il y a eu des discussions avant, pendant et après, mais à mon avis si. Mais donc on va continuer à suivre ça et puis en espérant, oui.
Oui. Alors il y avait 2 à 3000 personnes à Laval. Par contre il y avait d'autres manifestations ailleurs.
Ah oui, merde.
Hein. C'était organisé par le réseau Sortie Nucléaire. Le réseau Sortie Nucléaire apparemment n'a pas réussi vraiment à faire en sorte que sur Laval ça soit qu'eux qui s'expriment, puisqu'il y a des gens qui se sont exprimés et qui ne sont pas au réseau. Et par contre, dans des autres lieux, d'après ce que l'on sait, il n'y avait pas grand monde. Il y avait quelques centaines de personnes à Bugey, hein, c'est près de Lyon. Il y avait la même chose à Bordeaux. Et effectivement, il semblerait, d'après ce qu'on sait, c'est qu'au niveau du réseau Sortir du Nucléaire, qui est un réseau dont l'on critique beaucoup, nous, hein, puisque c'est pour nous des gens qui n'ont rien fait pour être vraiment sur le terrain, ce sont des gens qui font tout pour être au niveau institutionnel, et puis surtout au niveau de culpabiliser les consommateurs qu'ils consomment trop d'électricité, etc. Mais sur les luttes, pas grand-chose. Et puis surtout, ils sont là surtout pour demander l'arrêt du nucléaire dans 10, 20, 30 ou 40 ans. Ça, c'est toujours la même chose. Et puis ensuite, il faut dire aussi qu'ils sont liés, de fait, au Parti Vert, qui est au pouvoir avec le Parti Socialiste, faut-il le rappeler. Donc effectivement, ces gens-là étant au pouvoir, ils n'ont pas mobilisé grand-chose à Bugey, ils n'ont pas mobilisé grand-chose à Bordeaux, ainsi que peut-être ailleurs. Je sais pas, Camille, si tu as des nouvelles.
Bon, à Strasbourg, ils étaient 150, à Metz, 150.
Oh là, d'accord. D'accord.
Non, mais on
prend. À Lille, 100.
Oui, c'est ça. En fait, ils avaient essayé de mettre le paquet,
à Laval,
où ils espéraient 10 000 personnes. C'est bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'ai lu un communiqué d'un ex-porte-parole du réseau qui maintenant n'est plus dans le réseau et qui disait que c'était lui, il considérait ça comme un échec. Voilà.
Oui, bon. Alors en plus, ça avait des revendications quand même, il faut le souligner, mais on approche de la débilité profonde, puisque notamment à Lille, et je crois que c'était à Bugey aussi, mais c'était fermeture des centrales de plus de 30 ans. Voilà, hein, maintenant on en est avec des espèces de deals qui semblent avoir été passés avec les Verts, où on sait pas trop, on n'assume pas, on n'assume plus. Bon, il est vrai que par rapport à tout le baratin et à tous les efforts et l'énergie qui ont pu être consacrés à l'édification de ce réseau et au nombre de militants certainement sincères qui se sont impulsés là-dedans, le résultat c'est quoi? Le résultat c'est la fermeture, peut-être. Bon, c'est annoncé comme ça, mais les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Deux Fessenheim, voilà. Voilà le résultat de 15 ans.
En 2017,
en 2016,
ce qui peut être remis en cause immédiatement après les élections, parce qu'en 2017, il y a les élections. Donc on voit pourquoi ils ont placé 2016 comme date.
Voilà le résultat de 15 ans de lobbying. Voilà.
Voilà. Bon, alors, d'un côté, il faudrait pas non plus que nous, on satisfasse de ça, en sens que il faudrait qu'il y ait un mouvement véritablement anti-nucléaire qui commence à émerger aujourd'hui, mais qu'il faudrait que il y ait, pour ça, il n'y a pas de mystère, hein, il faut qu'il y ait des luttes sur le terrain, hein, c'est évident. Donc, il y a encore des luttes anti-THT, il y a peut-être BUR, on le sort en 2013, et voilà. Bon. Allez. On en recose.
Ouais, peut-être, je ne sais pas, on enchaîne directement sur le son, puisque effectivement, on va encore une fois penser à Yannick et à ses deux camarades qui ont été relaxés. On va aussi penser à notre camarade Jean-Noël qui doit nous écouter certainement. On lui fait un petit salut quand même. Et puis donc, le 9 octobre, il y avait le résultat de ce procès, mais il y avait aussi la fameuse journée CGT pour l'emploi et l'industrie. Alors, si vous voulez, je vais dire le terme exact. C'est pas ça, ça doit être ça. Qui fêtait la fondation d'un syndicat européen de l'industrie.
Voilà, c'est ça, puisque c'était les journées européennes, comme il y en a maintenant tous les ans, et seule la CGT avait décidé de mobiliser un peu, parce que les autres, ils ont rien fait.
Hein. Attention, ça va chier. Hein. Maintenant, il y a un syndicat européen de l'industrie, ça va barder, on va voir ce qu'on va voir. Donc pour nous, ça va être l'occasion de revenir sur PSA, puisque il s'est passé quand même quelque chose ces derniers temps. On va écouter un son pendant une vingtaine de minutes. Je trouve que le son est très intéressant. Je dis merci à Leïla, d'ailleurs, qui me l'a envoyé. Le son est très intéressant, puisque il montre bien toutes les facettes de la mobilisation à PSA. Puis après, on reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé depuis. Le son date de la première semaine de septembre. Je peux peut-être quand même éventuellement vous refaire une petite présentation pour vous remettre un peu dans le bain. Donc, PSA, ça a officiellement commencé le 25 juillet dernier, donc avant les vacances, puisque ce jour-là, plus de 2000 salariés ont défilé devant le siège de PSA, avenue de la Grande Armée à Paris, en criant que haut et fort que PSA serait le grand dossier de la rentrée sociale, que ça allait barder, encore une fois, parce qu'en effet, ce 25 juillet, Philippe Varin, le PDG de PSA, venait d'annoncer la suppression de 8000 emplois en France et la fermeture définitive d'Aulnay en 2014. Donc cette décision, l'annonce en fait de Varin, n'est évidemment pas une surprise, puisque dès juin 2011, la CGT avait sorti un document secret entre guillemets qui laissait évidemment deviner les intentions et la fermeture de plusieurs sites, dont celui au Nez. Alors évidemment, ça a été l'occasion pour la gauche de ressortir une santé, et au lendemain de sa victoire, Hollande a dénoncé un plan social inacceptable, s'insurgeant en fait, quand on lisait un peu derrière les mots et entre les lignes, on voyait bien que Hollande dénonçait plutôt l'annonce tardive d'une décision qui avait été prise avant, plutôt que la décision elle-même. Et donc effectivement, ça a été assez rapide, puisque... Ah oui, il avait aussi également parlé et trouvé scandaleux les difficultés financières d'un groupe qui avait reçu au cours de ces 5 dernières années, faut-il le souligner, 4 milliards d'euros d'aide, notamment sur le chômage partiel et le chômage technique. 4 milliards d'euros, voilà ce que nous coûte les parasites que sont les capitalistes. Quand on parle des cancers de la société que sont le RSA à 419 euros par mois, 4 milliards d'euros, je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça peut être. Enfin, bon, voilà. Assez rapidement, donc, le gouvernement socialiste et son monsieur plus, là, Arnon Montebourg, a baissé le museau, puisque fin juillet, Arnon Montebourg a demandé au syndicat d'être responsable et donc de responsable et légitime. Donc aujourd'hui, en fait, à part la consultation de ce plan social, l'enjeu, c'est plutôt de négocier directement pour éviter les licenciements secs qui vont s'ajouter aux 3 millions de chômeurs qui sont déjà là et qui vont grossir vu que la crise est encore là. Et d'un autre côté, pour les syndicalistes, il y a aussi cette ligne de savoir est-ce qu'on garde l'usine, est-ce qu'on garde les usines, ou comment on fait le truc, sachant que le plan social va être accepté, quoi. Donc, mais en fait, la vraie question qu'il faut se poser, qu'on essaye de poser, nous, quand on discute avec les gens de PSA ou qu'on s'interroge là-dessus, c'est que pour les ouvriers, la question qui se pose, c'est celle de la capacité à inventer des nouvelles formes de résistance et des nouvelles formes de combat. Parce que, on va l'entendre, il y a une certaine prise de conscience des enjeux, Mais pour le moment, ça commence à du mal à débuter sur quelque chose de dur et de fort. Et on voit tout de suite que la direction, elle, elle a déjà anticipé, elle a déjà prévu, elle sait qu'est-ce que c'est que la guerre de classe, puisqu'elle a déjà commencé à augmenter sa production pour éventuellement pallier à d'éventuelles merdes ou d'éventuels défauts qu'il pourrait y avoir à la fin de l'année. Donc à Aulnay, la guerre sociale, elle est déclarée. Mais pour le moment, il n'y a que les bourgeois et il n'y a que les patrons qui sont sur le terrain. Où sont les prolétaires? Peut-être qu'ils arriveront. On en parle après le son.
Ça fait un an qu'on milite au moins une action par mois pour expliquer à tout le monde que la direction prépare ce coup bas de la fermeture du site. Certains nous ont cru et ont fait les actions avec nous. Une majorité d'entre vous n'ont pas cru à ce qu'on a dit. Maintenant, on n'a plus le choix. Le coup de massue est tombé ce matin. À celui qui croit encore qu'il y a de l'espoir de ne pas fermer le site de Aulnay, il rêve. Il rêve. On ne leur donnera pas l'occasion de nous cracher dessus, parce que c'est trop facile. Les gens de Aulnay, ils n'ont pas démérité. On fait de très bonnes voitures, on fait de la qualité. On n'a rien à se reprocher. Cette décision, elle est industrielle, et la direction, elle se moque de nous. Elle nous sacrifie, et ça, c'est pas normal. Nous, on veut garder nos emplois.
Il va falloir qu'on soit très conscient de ce qui nous attend. Il va falloir qu'on soit conscient qu'il va falloir qu'on s'organise d'une certaine manière. Qu'il va falloir qu'on fasse des actions efficaces. Qu'il va falloir qu'à chaque fois qu'on se déplace à l'extérieur, à chaque fois qu'on fasse une action, il faut que ça marque. Eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'on leur fasse mal. Qu'il faut qu'on fasse mal à Peugeot. Et qu'à chaque action qu'on fasse, ça soit un avertissement aux pouvoirs publics qui aujourd'hui sont restés passifs, qui n'ont absolument rien fait. Il faut qu'on leur dise, qu'on leur donne cet avertissement à chaque fois qu'on se déplacera. Eh bien, essayez de vous bouger. Essayez de faire en sorte que Peugeot ne ferme pas cette usine, parce que nous, on n'est pas prêt à se laisser faire, on n'est pas prêt à se faire foutre dehors. Vous savez, c'est notre seule richesse, notre boulot, notre seule richesse. Alors, si on nous oblige à vendre notre peau, si on nous oblige à vendre notre boulot, eh bien, je veux garantir, là, il faudra qu'on fasse un serment solennel, eh bien, qu'on leur fera payer très très cher, et qu'on fasse passer l'envie à Peugeot de fermer des usines. Ouais, les journalistes qui disent qu'on représente une bombe sociale, une bombe politique, ouais, on représente une bombe sociale, une bombe politique, et on va pas s'en priver d'utiliser.
Ce qu'on veut, c'est garder nos emplois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Un petit peu me décrire là ce qui se passe aujourd'hui, parce que je viens d'arriver, il y a eu une annonce ce matin qui a été dit comment
eu la réunion du CCE sur Paris qui a remis les dossiers au syndicat, expliquant la situation du groupe, leur pauvreté, leur grand malheur. Donc on paye les pots cassés. On l'a découvert ce matin en briefing. Nos chefs allègrement nous ont dit que c'était terminé pour Aulnay, qu'en 2014 on mettait la clé sous la porte. Là actuellement, ils ont 15 jours au niveau des syndicats pour ouvrir ce fameux dossier, pour pouvoir étudier un petit peu les propositions faites par le PSA. Et après, c'est à eux, c'est dans la main des syndicats de négocier au mieux pour que les gens, non seulement on garde notre site ou un départ avec ce qu'il faut pour les gens et qui partent avec honneur et respect surtout, parce que là c'est un manque de respect total vis-à-vis des ouvriers qui se passe. C'est vraiment les prendre pour des chiens, c'est vraiment mettre en considération tout le travail, tout ce qu'ils ont donné, parce qu'il faut savoir qu'on a des horaires où notre vie de famille la plupart du temps est empiétée, et ça fait des années que ces gens ont donné. On est le site le meilleur de France et on nous sacrifie. On nous sacrifie pour une politique, pour des idéaux qui ne sont pas les nôtres. Nous, ce qu'on veut, c'est notre travail, on veut rester ici, on aime l'Île-de-France, on aime la Seine-Saint-Denis et on veut rester là. C'est surtout ça. Et aujourd'hui, on mobilise tout le monde. Notre force, c'est d'être ensemble. Et on sera ensemble et on sera là à la rentrée. C'est une guerre. On n'a pas, il n'y a pas d'autre mot pour dire on part pas faire une balade à la campagne. Là, c'est nos vies. C'est le futur de nos enfants aussi. Et si on ne se bat pas maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans quelques années pour eux? Il ne faut pas penser qu'à nous. Il faut qu'on tienne le coup et qu'on montre que oui, les ouvriers, quoi qu'ils en ont pensé, sont intelligents, sont respectueux, connaissent les lois et qu'on ira jusqu'au bout. Quand on donne même pas 30 000 euros à une personne qui a donné 42 années de sa vie, c'est dire non, Non, ça suffit pas.
Et justement, ce qu'on parlait, c'est qu'il y a le salon d'automobile à Paris, enfin le mondial de l'auto à partir du 29 septembre, et qu'on se disait que là, c'est incontournable, il va falloir qu'on organise des actions, il va falloir qu'on manifeste. C'est la vitrine des constructeurs automobiles, et ben, il faut qu'on y aille voilà, et exprimer ben, notre révolte, et puis dire qu'il y en a marre de tout ça, parce que du pognon, il y en a, et eux, ils se font du... C'est, ouais, c'est ça, il y a un côté guerre sociale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un patron qui déclare la guerre, il faut qu'on y réponde.
Des opérations coup de poing, imprévues. Voilà, c'est ce qui marche le plus. Et ça, c'est, je pense que le patron n'aime pas trop ça.
Non, c'est une guerre sociale.
Il faut que la production s'arrête. Voilà. Produire, c'est fini.
La lutte, elle permet parfois de créer un petit équilibre qui permet de gagner du temps. Mais la réalité, c'est que pour changer tout ça, il faut qu'on se batte tous ensemble. Il faut que les ouvriers partout, on résiste ensemble avec les Air France, avec les PSA, les General Motors, les Fralib, les Technicolor, les Saudi Medical. Il faut qu'on arrive à se faire ça, il faut qu'on apprenne ça, parce que c'est que comme ça qu'on pourra imposer l'arrêt de la crise, quoi. C'est parce qu'il y aura un rapport de force tel que, mais un peu comme mai 68 avait réussi à imposer des grosses augmentations de salaire, ou juin 36 avait réussi à imposer des revendications énormes. Il faut qu'on soit des millions à se battre ensemble.
Comment vous imaginez là et l'autre, après la fermeture, qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour votre travail
Après la fermeture ?
Oui.
On va faire un comité de lutte. Le comité de lutte, c'est ça les stratégies, parce qu'il n'y a pas de syndicats qui vont décider ou quoi, ça va être les salariés qui vont décider de leur situation, ça veut dire les salariés nous disent, c'est eux qui se réunissent, c'est eux qui décideront, c'est eux qui disent on fait grève, c'est eux qui disent on crame. Mais ça va être un comité de lutte, et là on va rentrer, on va discuter, on va convaincre tout le monde, et à la rentrée on va rentrer, on va être en guerre. Guerre avec PSA.
Je suis devant juste le siège de PSA, 75, avenue de la Grande Armée. Il y a un groupe de manifestants salariés de Dolnay qui est déjà présent, les syndicats, CGT, CFTC, CFDT. Et arrive un groupe vraiment de manifestants, et c'est assez impressionnant sur cette grande avenue cossue, chic, de voir arriver ce groupe de manifestants. C'est les manifestants qui ont été amenés ici par des bus qui sont partis de parking de l'usine PSA Dolnay et qui arrivent en force.
On est venu en soutien pour nos collègues Dolnay. C'est un élan de solidarité. Nous, à Mulhouse, on n'est pas trop concernés pour l'instant. On a 273 emplois qui sont concernés, mais c'est surtout par des départs volontaires. On veut l'emploi made in France. Il faut qu'on arrête de faire des erreurs stratégiques dans le groupe, puisque là, c'est un début et on veut pas ça, quoi. C'est des milliers de familles qui sont concernées. Demain, on ne sait pas où ça peut être. Voilà.
Vous avez prévu de passer la journée ici ?
Oh, je pense, oui, et puis on retournera en train à 16h sur Mulhouse.
Merci,
de rien. Moi, c'est Monsieur Grienti, donc je suis délégué syndical à Mulhouse.
Alors, on vient soutenir nos collègues Dolnay, on vient de la Lorraine. On sait que tous les sites peuvent être concernés dans l'avenir, donc on soutient nos collègues Dolnay, et c'est vrai qu'on a tous peur pour notre emploi. Donc on est tous concernés.
Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui de particulier ?
Ils vont annoncer bien la fermeture d'Aulnay, bon, et les suppressions d'emplois. Et nous, ce qu'on attend, c'est aussi l'alliance avec General Motors, les conséquences qu'il va y avoir derrière. Et on a peur qu'il y ait des sites qui suivent Aulnay et qu'on soit un jour concerné par cette suppression.
T-shirt. PSA assassin, la lutte continue. Là, c'est marqué boycott PSA assassin, parce que PSA se fait de l'argent avec les voitures qui vont à ses salariés aussi. Donc nous, s'il veut nous licencier, on doit aller boycotter ses voitures. Donc on ne doit plus acheter ses voitures. S'il faut acheter allemand, on achètera allemand. Comme ça, il comprendra que c'est nous qui font vivre PSA et c'est grâce à nous qu'il a un salaire de 9 000 euros par jour, week-end compris.
Mais ça, c'est pas très patriotique d'appeler au boycott.
Ouais, c'est pas, on n'est pas là pour faire du patriotisme. On est là pour se battre pour nos emplois. Il y a pas, il y a, l'international maintenant. Maintenant, tout le monde parle de l'international. Donc, toutes les entreprises parlent de l'Europe, des entreprises un peu partout. Donc, il n'y a pas, de raison de manger et de boire que français. Non, c'est pas possible pour nous.
Mais monsieur, c'est marqué assassin.
Assassin,
c'est fort comme mot.
C'est pas fort parce que vouloir assassiner 3600 salariés, à PSA, personne n'a dit que c'était pas juste. Bien sûr, c'est juste d'écrire ça parce que c'est le terme exact. Parce que c'est un suicide, c'est une mort sociale pour 3600 salariés et toute une zone du 93 qui est touchée. Quand les gens, demain, ne pourront plus nourrir leurs enfants, c'est un assassinat. Voilà, donc c'est comme ça. Il n'y a pas un autre mot.
Vous travaillez chez PSA Peugeot depuis combien de temps?
Je suis là depuis 95, ça fait 17 ans que je suis à PSA Aulnay. Donc, quand je suis arrivé, il y avait 7000 salariés. En 95, on était 7000 et là, on se retrouve à 3500 salariés. Donc c'est déjà divisé par deux, et en plus là ils veulent encore diviser par deux et garder que 1500, donc les autres 1500 vont se retrouver carrément à la rue. L'ambiance elle est morose, voilà, les gens ils sont résignés, ils sont en colère, voilà, c'est contre cette fermeture annoncée par PSA Aulnay. Bien sûr les salariés sont en colère parce que ils ont tout donné, certains salariés ont travaillé toute leur vie dans cette usine, et aujourd'hui PSA les remercie gratuitement en leur disant c'est fini. Pour essayer, en tout cas, d'augmenter les profits des actionnaires. Donc, on ne peut pas accepter cette situation. Il y a deux psychologues à temps plein depuis le 12 qui sont là pour recevoir les salariés tous les jours qui se plaignent des situations très difficiles psychologiquement à vivre. Donc, ils se retrouvent dans des situations très difficiles. Donc, les salariés vont souvent à l'infirmerie. Donc, les pompiers sont tous les jours en alerte pour amener des salariés qui tombent sur les chaînes de production. Des femmes notamment. Beaucoup de femmes ont subi cette fermeture comme une attaque frontale, donc une attaque physique contre elles. En tout cas, nous, on pense que, à Sud, en tout cas, on pense que PSA est responsable de cette situation. Il est le seul responsable d'avoir mené PSA dans la faillite, donc c'est à lui de partir. Donc on demande la démission de Varin parce que c'est lui qui a fait des choix stratégiques, les mauvais choix stratégiques pour l'ensemble de l'entreprise. Donc il doit partir et remettre tout à plat et puis partager le travail entre tous les sites de production. Pour nous, il faut qu'il n'y ait ni fermeture ni licenciement. Ce qu'il nous reste à faire, c'est le blocage carrément, le blocage de la production et le blocage de toutes les voitures. Donc aucun véhicule ne doit sortir de Aulnay-sous-Bois, soit probablement en septembre. La guerre, elle est déclarée, donc on pense que c'est le seul moyen qu'il nous reste à faire, c'est bloquer la production et bloquer les voitures qui sont faites pour les vendre. Donc on ne peut pas accepter que de vendre nos voitures aujourd'hui à PSA. Donc PSA ne peut plus se servir de nous pour vendre ses voitures.
Donc plus aucune voiture ne sortira des usines.
Normalement, aucun véhicule ne doit sortir en septembre. Je t'ai bien donné parce que je suis à Aulnay, je ne connais pas les situations d'autres sites. Hein. Mais je pense que d'autres sites aussi vont suivre. Merci beaucoup.
Merci, monsieur. Merci.
C'est Mohamed Kinich, délégué syndical Sud.
Parce qu'il n'est pas question pour nous de négocier quoi que ce soit avec Peugeot pour obtenir des garanties sur le maintien de l'emploi, de tous les emplois, avec la tête sur le bio et cette lame de la guillotine qui descend inexorablement vers nous. Ça, pour nous, c'est pas possible. Donc, ça va être notre objectif premier dès la rentrée. Et pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Il y a la mobilisation. On est en train de faire la jonction avec les salariés de Rennes. C'est très bien. Franchement, on est optimiste. Et aujourd'hui, c'est nous qui avons marqué des points. C'est pas Peugeot. Maintenant, vous savez, pour modifier tout ça, pour faire bouger les choses, il faudra que les salariés se mobilisent massivement, profondément. Qu'on aille prendre contact avec nos camarades de Rennes, les camarades de Poissy, de Sochaux, de Mulhouse, et puis qu'on soit tous ensemble dans cette lutte, ce bras de fer qu'on va devoir mener contre la direction pour faire reculer Peugeot le plus loin possible et faire bouger le gouvernement. C'est pas possible que le jour où Philippe Varin voulait enclencher immédiatement le plan de licenciement sur Rennes et sur Aulnay, que le gouvernement mette sur la table des centaines de millions d'argent public, c'est-à-dire notre argent, l'argent des impôts, et puis qu'en même temps on se fasse licencier. Mais c'est écœurant et c'est indécent. Aujourd'hui, tout ce qu'il y a de concret dans le plan d'aide du gouvernement, c'est pour les patrons. C'est pour les patrons de l'automobile. Il n'y a rien pour les salariés. Alors ça, il va falloir que ça change. C'est pas possible que notre argent, l'argent des impôts, soit dilapidé dans les caisses privées des patrons sans même demander la moindre contrepartie sur le maintien de l'emploi. c'est plus possible de faire sacrifice sur sacrifice, alors qu'en haut, ce goinfre d'argent, l'argent coule à flot. PSA, Varin l'a dit ce matin, 12 milliards, ils ont au coffre, 12 milliards, 12 milliards de trésors de guerre, ils veulent nous licencier, c'est partout pareil dans toutes les entreprises, bah il y en a marre de ça, il y en a marre. Il va falloir qu'on se mette tous ensemble, qu'on s'unisse et qu'on les fasse retuer. Il va falloir trouver la force, cette force en nous, et dès septembre, j'espère que ça va être sur les chapeaux de roue, en tout cas on va travailler pour ça. Ça fait des années et des années qu'on fait des sacrifices sur nos emplois et nos salaires. Donc pour nous maintenant, c'est fini. Le temps des sacrifices du côté des travailleurs, c'est fini. Il faut qu'ils se le disent là-haut. Il faut qu'ils se le disent au gouvernement. C'est aux actionnaires de payer. On est dans un groupe Peugeot où l'actionnaire principal, il est multimilliardaire, où il a placé sa fortune en Suisse. Nom de Dieu, c'est bien à eux de payer quand même. Voilà, il n'y a aucune loi en France qui existe où, quand une entreprise connaît de légères difficultés, c'est aux salariés de payer. De quelle loi, là? Ça n'existe pas, cette loi. Donc, il faut une loi pour interdire les licenciements. Voilà, c'est une mesure de salut public. C'est pour protéger les salariés, pour protéger les travailleurs. Parce qu'il y en a marre qu'on fasse des sacrifices. C'est autour des actionnaires. Aujourd'hui, la direction de Peugeot voulait immédiatement mettre en œuvre la machine infernale à licencier. Il ne voulait pas perdre de temps, malgré les promesses qu'il a faites à Jean-Marc Ayrault. Voilà, concrètement, le concret, c'était ça. Varin, il voulait démarrer tout de suite le plan de licenciement. Voilà, c'est les 1400 salariés de Rennes qui sont licenciés et la fermeture de l'usine d'Aulnay. Bon, eh bien, les syndicats, aujourd'hui, avaient un devoir envers les salariés de Peugeot. C'était d'utiliser les moyens juridiques qu'ils avaient en leur possession pour bloquer provisoirement cette application.
C'est quoi les moyens juridiques, vas-y?
Eh bien, c'est de ne pas rendre d'avis et de nommer un expert. Eh bien, les syndicats ont fait bloc face à Peugeot, c'est une bonne nouvelle, on s'en félicite et on a fait reculer provisoirement l'application, le démarrage du processus. Donc on a gagné quelques mois et à la veille des congés, ben, c'est une très bonne nouvelle, je vous le garantis.
La première bataille est gagnée là, on peut
dire. C'est une petite escarmouche qui a été gagnée, restons humbles. J'en viens remercier le délégué CGT à l'usine de PSA en Grèce.
Les Rennais ne sont pas d'accord. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une avancée là aujourd'hui?
L'avancée qu'il y a, c'est le fait de bloquer la mise en place du PSE. Voilà, ça nous fait gagner déjà au moins 2 mois, le mois de vacances, et avec la nomination de l'expert, ça empêche la consultation, et ça va nous faire gagner 2 mois, c'est toujours 2 mois de prix, et si c'est un peu plus, c'est tant mieux.
Vous êtes donc délégué au syndical SCIA.
Nous, on est un vrai syndicat à part entière, on défend les intérêts des salariés. Malheureusement, la finalité, je pense qu'on ne peut rien faire. Et d'ailleurs, notre président, M. Hollande, l'a dit, hein, il ne peut pas empêcher la fermeture du site d'Aulnay. Maintenant, à nous d'imposer à la direction de vraies mesures. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il nous propose, c'est vraiment ras des pâquerettes. 1 000 euros par année d'ancienneté, c'est peanuts. Il y a plus de 1200 salariés qui ont moins de 13 ans d'ancienneté. Donc 1 000 euros par année d'ancienneté, c'est inacceptable.
Donc en fait, vous battez pour que les salariés partent dans des bonnes conditions. Et d'autres se battent pour que ça ne ferme pas.
Mais se battre pour que ça ne ferme pas, c'est se battre contre des moulins, ça ne sert à rien. Il faut se battre pour que les salariés partent dans les meilleures conditions, pour ceux qui le souhaitent soient reclassés et qu'il y ait de vraies mesures.
Mais c'est ça les divergences, vraiment?
C'est ça un peu les divergences. Certains essaient de faire croire qu'on peut empêcher la fermeture du site alors qu'elle est déjà bouclée. Monsieur Montebourg avait dit qu'il empêcherait la fermeture du site. La seule chose qu'il nous propose, c'est des mesures bidons sur les véhicules électriques, les véhicules hybrides et 2-3 trucs qui servent à rien. Ou en tout cas qui ne résoudront pas le problème de l'emploi aujourd'hui en France et encore moins celui de l'industrie automobile.
De la pause.
Oui,
ça va être l'heure de l'apéro.
Ça va être l'heure de l'apéro à ce soir-là.
On est solidaires de nos camarades qui sont en train de manger
un truc
assez affreux d'ailleurs.
CGT en plus.
CGT.
Et nous on est FO. Alors ça va pas faire.
CGT FO.
CGT FO. CGT FO.
Alors pas à confondre des fois, si j'étais FO.
Il y a des tribus comme ça en fonction
ouais,
de ça.
Des tribus, non, je pense que c'est. Après, c'est peut-être des idées, des pensées qui parlent du verger, mais. On va dire, voilà, dans le plus grand nombre, on a tous les mêmes idées, on est tous d'accord sur ce qui se passe.
Et on vit tous des choses dramatiques à l'intérieur de l'usine parce que. Faut voir la tristesse des gens quand ils sont au boulot en ce moment. Voilà. Faut pas l'oublier. À l'intérieur, on prend une usine comme Aulnay où c'est quand même 3000 personnes. 3000 personnes à se retrouver du travail. Donc voilà, ça fait mal. Et puis en plus, on voit le désarroi de tout le monde petit à petit. C'est quand même dur.
On n'a pas le moral. Moi, je suis moniteur de ligne. Tous mes gars, ils n'ont pas le moral pour travailler.
C'est quoi moniteur de ligne?
Un moniteur, c'est celui qui s'occupe des retouches, tout ça sur ligne, et j'ai 5 postes. Et c'est très dur. Et on ne cessera pas faire.
C'est surtout pas commun de venir exprimer un petit peu toute notre inquiétude ici à la Grande Armée. C'est la première fois qu'on le fait, nous, Rennes.
Qu'est-ce qui se passe pour vous à Rennes, alors?
Alors, ils ont annoncé 1400 suppressions d'emplois. Ça concrétise en quelques mots simples, un salarié sur 4 s'en va. Donc vous comprenez que les gens sont très inquiets de savoir quelle catégorie qui sera concernée et qu'est-ce qu'on met dans le paquet pour accompagner ces gens au départ.
Et vous, qu'est-ce que vous faites dans l'usine de Rennes?
Je travaille en emboutissage, je suis magasinière. Je fournis à la fabrication de l'emboutissage tout ce qu'ils ont besoin, aussi bien les protections, les EPI, protections auditives, toute protection, quoi.
Mais je sais pas ce que c'est que l'emboutissage.
On donne la forme à la tôle d'une porte, d'un capot, d'un pavillon. Voilà, c'est là que tout s'opère, l'emboutissage.
Il n'y a pas beaucoup de femmes, hein. Très peu de femmes. Parce que c'est un boulot physique, les pièces sont lourdes. Pour ça.
Et vous, quel est votre sentiment là aujourd'hui?
En temps normal, je suis assez optimiste, mais là, je suis pessimiste hein, parce que je suis comme tout le monde. Hein, j'ai peur de perdre mon emploi, comme tout le monde, quoi.
Vous savez pas comment ils vont faire le choix. D'ailleurs, comment on choisit de licencier un tel plutôt qu'un tel?
Il y a des critères qui vont être mis en place, peut-être d'ancienneté, des critères liés à la famille. Avez-vous des enfants? Avez-vous des personnes à charge? Avez-vous des prêts en cours? Toutes ces questions-là vont se poser. Avez-vous rempli vos objectifs également lors de l'année? Donc tout ça s'additionne et ça va faire partie du critère de sélection.
Parce qu'on vous demande de remplir des objectifs, mais à tous les postes, ça, on a des objectifs à remplir?
Oui, bien sûr, tous les ans, là, on nous fixe des objectifs pour l'année. Chaque salarié est vu d'une manière individuelle. Et on observe s'il a rempli ses objectifs et s'il les a remplis, on lui en donne d'autres.
Une fois l'année, chaque ouvrier a un entretien il a une grille d'évaluation qui est suivant son travail. Il faut arriver à un stade et puis si on arrive à un stade, on peut espérer une petite augmentation ou monter d'un coefficient. Ou alors rien du tout.
Voilà, et comme les budgets sont très serrés, ben les enveloppes à donner, malheureusement, il y en a de moins en moins. Alors, malgré qu'on réussit notre objectif, et bien parfois, on n'a rien. Mais bon, nous, à Rennes, on baisse pas les bras. On est des gens qui voulons toujours aller de l'avant. On comprend que l'entreprise est en difficulté. Donc, on peut accepter aussi de faire des efforts. Mais là, aujourd'hui, ce qui tombe, c'est trop fort pour nous, quoi. Et c'est tout à fait légitime qu'on soit là, ici.
C'est pas indiscret de vous demander où vous allez en vacances?
Je vais rester à la maison cette année. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on vit des moments un peu moroses. Moi, ma femme a pris sa retraite. Donc, les salaires ont diminué à la maison. Donc, on vit ici une période d'acceptation. C'est vrai que tout ça ne nous dit pas, tiens, on va faire 8-15 jours en Corse ou à l'étranger. Nous, on est un petit peu plus raisonnable là. Bon, la Bretagne est belle. Hein. Voilà. Donc, autour de chez nous, on a de quoi se reposer.
Et vous partez en vacances?
Non, je ne pars jamais en vacances. Parce que mon mari n'a pas de travail. Et comme il est handicapé, ça va pas être facile pour lui de trouver du travail. Et j'ai une fille aux études, donc je ne peux pas me permettre.
La dernière fois que vous êtes partie, c'était il y a combien de temps?
Ça fait 20 ans. Et oui, ça fait 20 ans. Non, je peux pas parce que j'ai une maison à payer, j'ai mon mari qui a perdu son emploi, j'ai des animaux, c'est vrai. Et puis, non, je peux pas me permettre.
Là, ça fait pas qu'ils sont sortis, on va quitter maintenant les lieux. On a annoncé un départ pour 13h15, donc ça va être imminent.
Alors, commentaire.
Disons qu'on a entendu toute une panoplie de gens, hein, c'est-à-dire que ça va effectivement de CGT Faux, en passant par, tout et n'importe quoi d'ailleurs, mais bon, quand j'ai dit tout et n'importe quoi, c'est pas péjoratif, c'est pas du tout pour donner une quelconque leçon, mais ce qui est toujours pareil, c'est les gens disent des tas de choses sur le coup, et puis quand même, ça a été fait quand ça, début septembre. Est-ce que depuis début septembre, qu'est-ce qui s'est passé, quoi?
Alors justement, c'est ça qui est assez inquiétant dans le sens où la direction prend la lutte, puisque aujourd'hui, le premier axe de la lutte qui a été choisi par les syndicats majoritaires et minoritaires, donc majoritairement à Peugeot, c'est le SIA, et c'est le SIA qui est majoritaire dans les sites qui sont concernés par la restructuration, c'est-à-dire Aulnay et Rennes. Oui, comme par hasard, évidemment, hein, on n'a pas des crétins en face de nous, puisque par exemple sur des sites comme Sochaux, qui sont des sites de tradition historique de lutte de la métallurgie en général et de Peugeot en particulier, c'est la CGT qui est majoritaire et il y a des traditions différentes, je t'en prie.
Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que le SIA?
Alors le SIA, c'est le syndicat industriel de l'automobile, c'est un syndicat qui découle directement de l'ancienne CFT et auparavant de la CSL. À moins que ça soit l'inverse.
C'est l'inverse.
Qui était un syndicat d'abord clairement fasciste, en fait, hein, et puis ensuite...
Patronal, surtout.
Oui, alors, à noter qu'à l'intérieur de ce syndicat patronal, notamment dans la gestion de la main-d'œuvre immigrée, on réemployait beaucoup d'anciens militaires, voire même des barbouzes, notamment des anciens d'Algérie et des anciens de l'OAS, qui pouvaient avoir un mode de gestion extrêmement intéressant pour le patron dans des grands ensembles Peugeot, là où il y avait une main-d'œuvre d'origine immigrée. Je pense notamment à Poissy et dans les usines de la région parisienne où il y avait eu une forte composante dans les travailleurs de chez Peugeot. Et donc, voilà, c'est le syndicat du patron, hein, pour faire clair, avec... tout de même, aujourd'hui, puisque il y a effectivement une partie de l'histoire, une partie de cette génération-là qui n'est plus dans l'usine, faut absolument pas exonérer, hein, de ce que fait le SIA, mais on a des gens qui sont plus dans un mode corporatiste.
Corporatiste, c'est, hein, ce que j'allais dire.
C'est ça, ouais.
Ça donc se sent d'ailleurs quand on entend cette femme.
Dans un fait, donc un syndicat de service, un syndicat interne à la Peugeot, à PSA, plutôt. bientôt, parler avec les mots de 2010, et effectivement extrêmement corporatiste, qui va tout le temps être dans la décodécidisation. En fait, ce sera une sorte de CFT ultra modéré. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un accompagnement de effectivement de la dépolitisation et de comment dire, de la transformation du syndicalisme. Puisque aujourd'hui, on le voit bien, la CGT avec sa réorientation depuis une quinzaine d'années, on peut dire effectivement que la CGT a toujours été soit stalinienne, soit réformiste. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'à certains moments, si elle voulait défendre des acquis, elle se donnait les moyens de défendre des acquis et elle pouvait défendre des acquis. On se souvient ici où il y avait des immenses secteurs de la classe ouvrière qui étaient syndiqués CGT et qui pouvaient éventuellement défendre des acquis. Or, aujourd'hui, on a une CGT qui ne sait plus comment faire pour se battre et qui se retrouve prisonnière de son syndicalisme de service, qui est en fait la ligne Thibault depuis une quinzaine d'années. Alors à l'intérieur de la CGT, il y a eu des combats pour éventuellement avoir de réorientations sur le fameux syndicalisme de classe, mais c'est plus possible aujourd'hui dans la tradition de la CGT. Et on le voit, par exemple, chose qui est à la fois pathétique et tragique pour l'ensemble des travailleurs d'Aulnay en particulier et de PSA en général, c'est qu'aujourd'hui, la CGT, alors, et Métallurgie et Peugeot n'en est plus qu'à demander des rapports d'experts. Alors, il y a une critique du rapport Sartorius qui est vraiment à la fois logique et inquiétante, logique si on se place de notre point de vue politique, mais inquiétante pour l'avenir de cette lutte. C'est que, bon, le rapport Sartorius, c'est quoi en fait? C'est une full lecture, une analyse de la comptabilité de PSA qui est sur Internet, quoi. C'est ça, c'est rien de plus. Et donc, la CGT donc de PSA, la CGT de la métallurgie, qui est à Sochaux, a publié le 11 septembre une analyse de ce rapport en disant, je cite, une analyse très incomplète, une conclusion inacceptable. Et en conclusion, c'est la CGT attend une étude plus sérieuse et moins orientée de la part de l'expert du CCE et appelle les salariés à rester mobilisés pour défendre leur emploi face à tous ceux qui voudraient les enterrer. Donc en fait, on se rend compte que la CGT de Peugeot n'est pas capable de sortir la tête de son exploitation capitaliste et même des fonctionnements même de règles de l'exploitation capitaliste. Puisqu'aujourd'hui, le discours de la CGT Peugeot, c'est « Regardez, nous on a des solutions, on peut peut-être même faire mieux que vous ». Les capitalistes à gérer notre usine mieux que vous et à gagner des sous. Non, c'est pas possible. L'alternative, elle peut pas se réduire entre être plongé dans la misère ou être dans l'exploitation. On le voit là, sur les témoignages des gens qui mettent pour la première fois, parce qu'ils sont autorisés à en parler, des mots sur l'exploitation. On est fatigué, on travaille la nuit, ça nous bouche notre vie, ça nous bouche notre santé, on peut pas aller en vacances, etc., etc., mais on est complètement lié, on a besoin de ce travail parce que on sait pas c'est quoi l'avenir. Mais c'est ça dont il faut parler. C'est ça l'exploitation capitaliste. Et le deal, ça peut pas être soit on reste dans l'exploitation capitaliste comme ça, soit effectivement on se retrouve à la rue et on est dans la misère. Tant qu'il y aura pas ce discours-là, il y aura un terrain qui sera le terrain du capital et le terrain des capitalistes et donc du patron. Et à partir de ce moment-là, ils sont complètement piégés. Et alors, ils sont complètement piégés, ça se voit bien, parce que quand tu t'intéresses un peu à ce qui s'est passé, puisque effectivement, il y a deux mois, là, à partir du 4 septembre, pour des nouvelles analyses, des nouvelles expertises, d'un côté, c'est très bien, parce que ça permet aussi au gouvernement de gagner du temps, et particulièrement à Bondebourg, qui risque de se prendre une déculottée sévère sur le cas PSA, puis d'une manière générale, hein, parce que là on vous parle de PSA, mais c'est tous les jours, hein, c'est Thomson, hein, également, Technicolor, où il y a 351 personnes, j'ai pas parlé de Doux, mais c'est Doux, à Goodyear, en fait, il y avait eu en début d'été une annonce en disant que le plan de départ volontaire était sauvé, alors qu'en fait on est en train de se rendre compte que c'est pas du tout ça, bon, voilà. Donc il y avait eu comme carotte, pour les plus combatifs, je dirais, la manifestation du 9 octobre devant le salon de l'automobile. Alors, cette tradition, il y a toujours des envahissements négociés de manière générale de ce salon de l'automobile par les travailleurs de l'automobile. En 2008, il y en avait déjà eu un, en 2010 également. Alors, à l'époque, c'était Blanquefort, rappelé avec justement la figure de Poutou qui avait émergé. Alors, ils avaient peut-être envie de refaire ça pour poser ça. Bon, moi, quand on regarde dans les détails, on marche des envahissements qui sont plus ou moins négociés quand même, puisque la CGT Blanquefort avait déjà acheté ses billets hein, en avance, donc c'est un peu des invasions de limite, quoi, hein, des invasions légales, on va dire. Mais en fait, il y avait quand même un peu de flip, hein, puisque le 30 août, la réunion de la coordination des syndicats CGT Renault et la Fédération de la Métallurgie se sont opposés clairement à la manifestation devant le Mondial de l'Auto. Évidemment, vous imaginez bien que ce qui se passe chez Peugeot, ça va certainement bientôt arriver à Renault.
Oui, chez Renault, hein,
et là, par contre, effectivement, il n'y a pas de syndicat maison, c'est la CGT. Donc il y a évidemment des choses qui sont en train de se dealer là, puisqu'on se retrouve que les constructeurs, ils sont en train d'avoir une vraie guerre d'extermination entre eux, au niveau national bien sûr, mais au niveau international également, et que donc les places ou être très 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 cher. Donc vraiment, il y a évidemment à l'intérieur de la fédération des ensembles qui vont jouer les uns contre les autres. Il y a eu également le 8 septembre à Sochaux l'organisation d'un espèce d'exposition, meeting, conférence pour le centenaire de la fondation de Peugeot. Puisque c'était quand même le centenaire de la fondation de Peugeot, on le répète, à Sochaux, qui est la maison mère, l'usine mère, le site d'origine de la famille Peugeot, eh bien, il y a eu une mémoire extrêmement forte, puisque notamment en 68, on le répète, il y a eu 3 morts dans cette usine lors des occupations. Et il y a eu clairement une volonté, une timidité. Ce qu'ils ont fait, ils se sont greffés sur la manifestation pour l'emploi et l'industrie du 9 octobre. Alors, le Mondial de l'Auto, il est intéressant parce que c'est un des rares événements comme ça qui se passe à l'intérieur de Paris. C'est dans le 15e arrondissement, Porte de Versailles. Donc, c'est assez facile d'accès. Et il y a eu 2000 personnes qui ont essayé d'entrer à l'intérieur de ce salon, enfin qu'on essaye d'entrer, le mot est vraiment très très faible, puisqu'il y a eu quelques claques et un peu de lacrymogène, c'est certainement ce qui a dû contenter des ouvriers qui avaient envie un petit peu d'en découdre, hein, normal. Bon, avec en plus après je vous passe des communiqués triomphalistes sur les affrontements qu'il y a eu au salon de l'auto. Je pense qu'il faudrait que les ouvriers de PSA Aulnay demandent à leurs enfants qu'est-ce que c'est des affrontements avec les flics, s'ils pourront un petit peu savoir, ils ont vraisemblablement besoin de conseils. Mais en tous les cas, on sentait une vraie colère et une vraie potentialité d'être ici. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que il y avait des ouvriers d'autres lieux en lutte, donc Florange.
Ce sont pas l'automobile.
Non, ce ne sont pas l'automobile, mais il y avait j'ai oublié les Goodyear, pardon, Damien.
Ouais.
Donc qui aussi sont concernés, comme j'ai dit tout à l'heure. Et est-ce que ça va permettre aux éléments les plus radicaux, les plus déterminés, d'impulser, d'imposer leur rythme au mouvement APSA? Ça, personne ne peut dire qu'il sort. Effectivement, il semble qu'il y ait des propositions de mener la lutte, cette histoire de comité de lutte qui semble être la chose la plus intéressante. Mais voilà.
Oui, c'est ça. Bon, c'est sûr. En plus, il y a un autre truc qui était dit, mais ça n'a pas été fait, de bloquer toute sortie de voiture en septembre. Bon, on n'a pas entendu parler. Les voitures ont toujours, la production a toujours lieu.
Hein. Les cadences de production ont augmenté, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir prévoir le coup. Deux, il y a une alliance objective entre le SIA et la CGT pour dire que, en attendant, le premier truc, c'est la contre-expertise.
Ah, d'accord.
Et on est quand même aussi dans une espèce de superposition de millefeuilles, puisqu'il y a à la fois cette saloperie syndicale où il y a des enjeux de pouvoir internes et externes, mais il y a aussi effectivement des énormes enjeux politiques. Puisque à l'intérieur des groupes, la lutte est politique. On va le dire, faut le dire, c'est pas un secret de polichinelle. Le mec assume totalement. Le leader de la CGT, Jean-Pierre Mercier, est un militant de lutte ouvrière. C'est pas du tout un secret de polichinelle puisqu'il a été candidat à lutte ouvrière dans la circonscription de Montreuil. Donc il l'assume totalement. Le problème étant, c'est que évidemment son engagement politique se superpose à son engagement syndical et que évidemment il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose dans le sens où il sait que s'il engage le syndicat, il engagera lutte ouvrière également.
Complètement. Et en plus, je vois mal. Enfin, c'est une position assez bizarre. Parce qu'on le voit mal, ce monsieur, d'être dans un comité de lutte, par exemple. Ou alors, faudrait vraiment. Je suppose aussi qu'au niveau de la CGT, ce type de comité de lutte pose toujours des problèmes. Ah, ouais. À moins que ça ait changé, mais il fut un temps où c'était vraiment quelque chose
non,
qui n'était
c'est
pas...
une intersyndicale point barre.
C'est une intersyndicale point barre, ouais. Et puis c'est les délégués qui négocient et c'est pas autre chose, c'est pas les gens qui s'organisent. Hein. Ils sont contre l'auto-organisation.
Il y a des élections du personnel, c'est pas pour les chiens. Non, bon, alors c'est effectivement très facile de se poser comme ça à l'extérieur. En tant que donneur de leçons, d'autant plus que aujourd'hui, moi, en tant que militant, je ne travaille plus dans le 93, donc j'ai moins de légitimité à intervenir. C'était mon point d'achoppe, puisque effectivement, la poser la question du territoire et poser la question de cette population dans le 93, qui est là où se trouve une énorme population ouvrière, encore. Un peu,
bien sûr,
c'est l'ancienne banlieue rouge. Ça pourrait être des choses qui pourraient être intéressantes. Il y a eu des tentatives de fête, puisque le 29 septembre, il y a eu un meeting de lutte au quartier de la Rose des Vents, à Aulnay-sous-Bois. Le quartier de la Rose des Vents, en fait, c'est la cité des 3000. Un meeting intersyndical, attention, accroche-toi, CGT 93, CFDT, UNSA, FSU, Solidaire, et non, il n'y a pas le CIA, ils font pas de... Le SIA, pardon, ils font pas de syndicat, eux. Ils font pas de meeting. Mais ce qui est assez terrible, c'est que ce meeting n'avait que pour thématique que l'emploi sacrifié, c'est pas une fatalité, et voilà quoi, c'était la défense du développement et de l'emploi en Seine-Saint-Denis, PSA, Air France, Sanofi, Prétalis, etc., etc. Bon, ben voilà, on n'est toujours pas sorti du schmilblick, mais de toute façon, il y a l'expérience, ça se forme, et la conscience, ça se forme au fur et à mesure de la lutte.
Peut-être qu'il va se passer des choses intéressantes.
Il se passera des choses.
Il passera des choses.
C'est obligatoire. L'ampleur de la saignée, elle est tellement importante qu'il se passera des choses. Ça sera peut-être des actes individuels et désespérés. Ça sera peut-être des actes massifs. Que ça soit l'un ou l'autre, de toute façon, il faut être attentif et il faut le soutenir. Et je pense que pour les gens qui s'intéressent au mouvement social en France, c'est vraiment un moment de bascule. C'est-à-dire que, comme j'avais essayé de l'expliquer, on est à la fois dans l'ancien mouvement ouvrier, un mouvement ouvrier qui fait partie de l'histoire du XXe siècle et qui se retrouve aujourd'hui confronté à la crise du capital sous la gauche. Et il est évident que ce qui va se passer à Aulnay va avoir des influences sur toutes les mentalités. C'est-à-dire que s'il y a poussé vers des tentatives de tractation pour un plan social plus ou moins merdique, avec plus ou moins d'indemnités, bah, les gens regarderont ça et diront « mais il n'y a rien à faire en fait ».
Ouais.
Alors que s'il y a des luttes, et s'il y a des luttes non seulement qui gagnent, mais je dirais même presque ce qui gagne pas, s'il y a des luttes qui s'assument en tant que telles, alors il y a des gens qui diront au moins peut-être que on peut peut-être pas y arriver, mais au moins il y a des gens qui récupèrent un peu de dignité, il y a des gens qui récupèrent autre chose, et que donc il y a une manière de s'affirmer d'un point de vue social en dehors du vote et en dehors de la carte syndicaliste, d'avoir un point de vue de classe. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne parle de classe dans la société, et c'est ça qui manque, de mon point de vue, d'avoir un vrai, une vraie parole de classe pour savoir où on se situe. Et comme ça, quand on sait où on se situe, de quel côté de la barrière et de la barricade, eh bien on ne subit pas, on subit moins. Parce que ce qui se passe n'est pas une fatalité, mais effectivement, c'est la guerre sociale. Et dans la guerre sociale, nous, on a un rôle à jouer, c'est le nôtre, c'est celui de notre camp, parce qu'en face... la bourgeoisie et leurs alliés, les politiciens, ils savent très très bien évidemment quel est leur camp. À nous de regrouper nos troupes et de combattre pour notre camp.
naturellement.
Nous unissons les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltérieurs. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se pousser des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence.
Je n'ai
pas
d'inconvénient, j'attends les ordres.
Allez, nous aussi, on attend les ordres. Allez, c'était la rigueur. Chaque semaine, sur les Golégarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, Radio Primitive sur Reims. C'est aussi sur OC Libertaire, sur le blog Le Chat Noir 51. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.